RNV Podcast. Du comics, du Marvel, des cartoons, de la bande dessinée. Il a choisi RNV pour vous en faire profiter.
Elia Alouaï, Nicolas Dimeo, bonjour.
Bonjour.
La source de nos peurs vient de sortir le deuxième tome, et là, on est dans un motel. Et ma question, comment est née cette série ?
Moi, j'écris des scénarios aussi pour des jeux, et à la base, c'était un scénario pour un jeu. Pour un jeu d'enquête comme ça, et puis c'est vrai que l'histoire avait tellement bien fonctionné qu'on s'est dit tiens, j'aimerais bien l'écrire et trouver quelqu'un pour la dessiner, et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que nous on s'est rencontrés à l'atelier ici, l'atelier d'artistes qu'on partage, et puis on avait les deux envie de faire un peu un travail artistique, bande dessinée, etc. Et puis il y avait cette histoire qui était là déjà, et ça a commencé comme ça en discutant et puis en disant tiens, on pourrait en faire une bande dessinée et la décliner plus loin sur d'autres tomes après.
Et c'est vrai que ce qui est génial, parce qu'en fait on est dans deux lieux complètement différents, on est dans un orphelinat pour le premier tome et là dans un motel, et c'est vrai que comment, en fait, en même temps vous cherchez des endroits où on pourrait presque dire se faire peur, parce qu'en même temps on est dans un roman, dans une bande dessinée noir blanc. Je sais que Elia, en même temps que vous dessinez, d'un coup vous pouvez aussi donner vos idées par rapport à la bande dessinée.
Oui, donc, comment dire, Nico, il a écrit tout un scénario, donc une histoire. Après, je commence à lire et à découper plus ou moins en images. J'essaie de faire toute une logique visuelle, donc de dessin. Et parfois, ça arrive de me dire, ah, peut-être ici, on pourrait faire ça, ou aussi, ou parfois des choses que je comprends pas ou que je propose. Et là, c'est très bien parce qu'on, nous sommes vraiment à côté, on peut rapidement échanger et arriver à d'autres choses. Donc je pense que dans cette histoire, je pense que j'ai participé un peu plus. Mais quand même, je dirais quoi, 10-20%, pas plus.
Avec vous, on s'amuse à se faire peur. Parce que c'est vrai que là, dans le deuxième tome, avec Scarlett Motel, c'est que on vit, ça veut dire qu'on vit avec l'héroïne, d'un seul coup on sait qu'on n'a pas le droit de quitter notre chambre après minuit, et d'un seul coup on a envie de faire comme l'héroïne, ça veut dire désobéir, et en même temps c'est vrai que c'est génial parce que on a les fantômes, on a les monstres, toutes ces choses là et en même temps, ce qui est dingue par rapport à ce que vous avez créé, c'est que ça se passe en Suisse.
Oui, alors c'était vraiment l'idée, c'était d'aller chercher des lieux abandonnés suisses et de leur redonner une légende. C'était vraiment ça, parce qu'on en a pas beaucoup en Suisse quand même, des lieux qui sont abandonnés, mais c'est des lieux qui sont qui font un peu peur quand même. Il y a quelque chose d'assez terrible quand on les voit. Par exemple, le premier Saint-Siméon, c'était énorme quand on en était voir avec Elia. On se retrouve devant ce bâtiment, on se dit waouh, il est vide depuis combien d'années, il a dû se passer des choses et tout ça, et on n'était pas au courant spécifiquement de, enfin il n'y avait pas vraiment d'histoire, et on s'est dit tiens, c'est des lieux parfaits pour créer une histoire d'horreur là en l'occurrence. Et puis pour Motel Scarlett, c'était la même chose. Quelle idée de construire un motel au milieu de proche du lac de Neuchâtel, au milieu du canton de Neuchâtel, dire tiens, c'est très étrange comme truc, et puis il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais.
C'est chaque fois on fait des lieux abandonnés, mais comme là vous venez de dire, en fait vous avez pu les visiter, mais est-ce que vous avez des fois des autorisations, ou des fois vous risquez de dire voilà, on part avec un appareil photo et puis on va photographier ces choses-là.
Je vais parler avec mon avocat. Oui. Parce que je suis obligée à répondre. Non, on n'a pas vraiment d'autorisation. Donc après, c'est un peu l'aventure. Je pense que le primaire, principalement, le Saint-Siméon, parce que c'est vraiment, on a été là devant, il avait une fenêtre ouverte, on se questionne, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on n'entre pas, c'est tout ça. Donc ça c'est assez cool, parce que d'un coup on se sent comme si on avait 10 ou 12 ou 15 ans et on est là un peu, tu sais. Oui, je pense que ça c'est cool, ça c'est assez bien de vivre aussi. Un peu plus que le dessin ou l'histoire, je pense.
Donc vous êtes fait même peur, en fait, en rentrant dans ces lieux-là, quoi. C'est-à-dire que vous avez senti comme des présences.
Ah oui, on s'est fait peur, parce que quand on a été voir donc le Rosaire, qui était à Fribourg, déjà, il était effectivement ouvert quand même. À part ça, la porte principale était ouverte aussi, donc c'est compliqué de dire que c'était interdit. Donc on a été voir quand même à l'intérieur. Et puis c'est vrai que c'est délabré. On entend des bruits, on s'imagine des choses, tout était encore là, il y avait des affaires de ski, il y avait la chaufferie où il y avait du charbon, il y avait tout plein de choses, il y avait des lits, il y a des trucs. Vous dites, comment c'est possible que, est-ce que ce lieu a été déserté du jour au lendemain? Et ça, c'était super intéressant, ouais, pour l'histoire.
Mais c'est vrai que ce qui est génial, parce que bah, je sais, Nicolas Dimeo, bah, vous faites des romans aussi à côté. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire une bande dessinée où il y aura du visuel ou bien un roman?
Alors, je dirais que tout dépend de ce qu'on veut dire. Je pense que la difficulté, elle réside dans ce qu'on veut dire. Je pense que c'est pas vraiment plus difficile d'écrire une bande dessinée, c'est peut-être même un peu plus rapide qu'un roman. Là où c'est plus compliqué, c'est effectivement de savoir ce que ça va donner après en dessin. Et moi, je transfère des idées sur papier. Mais au final, là, le gros du travail, c'est plutôt toi, Elia, qui le fait en transcrivant ce que j'ai écrit. Donc la difficulté, elle lui revient, finalement, j'ai l'impression, non?
Oui, je pense que c'est différent. Imaginons que c'est moi qui écris et moi qui fais des dessins. Je pense que j'imagine tout de suite. Après, quand tu prends un texte et qu'après tu dois entrer dans ce texte, tu le connais plus ou moins déjà, mais il y a toujours des choses que tu te demandes après. C'est vraiment. Et je pense que ça fonctionne exactement parce qu'on est très, très proches physiquement, donc on est là à côté l'un de l'autre, je dirais. Non? Parce que toutes les fois que j'ai un doute, je dois l'appeler, donc je...
mais ce qui est impressionnant, c'est le graphisme, en fait, de ces deux bandes dessinées. Donc, le premier volume, on a l'impression que c'est moins bande dessinée, ça fait plus carnet graphique, mais c'est impressionnant parce qu'on rentre dedans. Et ce que je dis, le graphisme, c'est impressionnant parce qu'on reste en noir-blanc. Donc, je trouve que dès qu'on enlève la couleur, on reste dans le noir-blanc, on est plus intrigué, on est plus pris par le dessin. Et c'est vrai que ça va pas être évident, en fait, de travailler comme ça. Parce qu'en même temps, on dessine et on ressent ce qu'on dessine. Donc des fois, on doit même se faire peur en dessinant. C'est un peu ça.
La question de la différence donc, entre le primaire et le deuxième, c'est que moi, je pense, moi, principalement à la base, je voulais faire un roman graphique, le primaire. Ouais. La maison d'édition nous a dit BD, toute cette histoire, parce que je pense que le roman graphique, ça se vend moins bien, on n'a vraiment pas un public et tout ça. Et, mais moi, j'ai un peu insisté. Et le deuxième, pour le deuxième, ils ont dit non, on va faire une BD. Et moi, je le regardais, je lui ai dit, j'ai jamais fait une BD, donc. Ça, donc. Après, je me disais, mais je veux pas faire une BD avec des carrés petits comme ça, donc, je sais pas. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'avais dit autre jour, déjà dans un autre moment, moi je commençais par le mieux de l'histoire. Et après je suis partie en avant et en arrière, un peu comme ça, parce qu'après j'avais peur de sentir une différence dans nos dessins. Donc je sautais tout le temps. Et à la fin, il y avait des pages qui manquaient, mais oui, genre, ah, il manque la page 5, ou il manque la page 10, un peu comme ça.
Mais ce qui est impressionnant par rapport au graphisme, c'est que vous dessinez à l'envers. C'est-à-dire, ça veut dire que vous travaillez avec la feuille noire, inversement, en fait, comme un négatif.
Après, ça s'entraîne, tu sais, et après, on entre dans la chose. Mais c'est vrai que normalement, en dessin, on va faire le noir, l'ombre, le contour, je sais pas, je veux un peu comme ça. Et là, non, c'est voir où est la lumière et faire la lumière, donc dessiner la lumière. Et là, je dois dire, par exemple, si on voit des classiques comme Rembrandt, ça sonne complètement bizarre, mais j'adore Rembrandt, exactement parce que lui, il faisait sortir ses personnages des cadres, donc il travaillait exactement la lumière. C'est ça, des choses, wow. Donc là, je parle d'un niveau, au niveau très, très, très grand, mais c'est, oui. En même temps, je pense que cette langage, elle va très bien avec l'histoire, avec l'ambiance et tout ça. Aussi, donc on a un peu développé ensemble, on dit, ah, est-ce qu'on fait comme ça, est-ce qu'on fait comme ci?
C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas trop la bande dessinée, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez travaillé en fait sur le papier noir, mais c'est comme une carte à gratter, c'est-à-dire que c'est le blanc qui est mis par-dessus. Ouais. Donc c'est un travail assez conséquent.
Donc c'est une fausse carte à gratter, voilà, parce que je travaille avec l'iPad. Mais je commence pour donner une texture noire, voilà, à la page, on couche comme ça, et après je travaille sur ce noir. Exactement. Évidemment qu'après, je vois des dessins, je vois des photos principalement, je fais toute une série de photos pour être sûr de certaines postures, certains mouvements. Et après, je travaille un peu comme ça. L'avantage, c'est aussi des avantages, c'est que dans une carte à gratter, pratiquement le dessin qu'on fait, il est fait, soit pour un autre, c'est compliqué, on peut faire des corrections, mais moins. Mm-hmm. Là, sur un iPad, on peut venir en arrière et en arrière et en arrière. Et parfois, ça, c'est assez compliqué de dire, ok, c'est bon, je bouge plus, c'est fait le dessin. Tu vois, cette idée de spontanéité, cette idée de... Et ça, pour moi, ça a été un peu compliqué. On a tendance à venir et à dire, ça fait genre 3 jours que je suis dans une image, c'est bon. Hein.
Et je trouve que vous êtes un superbe duo en bande dessinée, parce que quand on voit la source de nos peurs, moi je trouve, par rapport au cinéma, je suis entre du Hitchcock et puis du Stephen King, parce qu'on a l'intrigue, c'est-à-dire qu'on est plongé dedans du début à la fin. Et comme je disais au début, c'est-à-dire qu'on vit avec nos personnages. Et c'est vrai que, bon, on est pris. Et c'est vrai que c'est impressionnant de travailler comme ça en bande dessinée.
C'était important d'avoir des références, ouais. Mais merci d'avoir du coup relié ça à ces références-là, parce que c'est vraiment les références qu'on aime les deux, je pense. Et puis c'est des choses très visuelles qui ont changé une certaine histoire du cinéma ou une histoire de la culture artistique. Et puis qui ont apporté quelque chose de plus que juste on crée quelque chose qui fait peur. Il y a un vrai sens, il y a un vrai parti pris visuel, et ça on avait vraiment envie d'essayer de prendre ce qui va être bien là-dedans pour sublimer l'histoire. On essaye, on fait comme on peut. Après il y a des éléments graphiques aussi qui sont toujours très intéressants. Stephen King, Kubrick avec les tapisseries, les choses, c'est chouette quoi, je pense pour Elia à faire.
Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes encore plus loin que la bande dessinée, parce que le premier tome, si je me trompe pas, il y a une application où avec notre téléphone, il y avait des choses qui sortaient de la bande dessinée. Moi, je me rappelle d'une cassette qu'on voyait justement devant nous. Quoi. C'est impressionnant. Ouais. C'est votre éditeur, Claude Pahut, qui m'a montré ça et qui m'a dit « Faut que tu regardes ça, c'est impressionnant.
Ouais. »
Et c'est vrai que c'est dingue. Et là, en fait, dans votre deuxième tome, là, on est plongé. Il y a une vidéo, on peut presque voir les bonus en fait, pour rentrer avec vous. Dans le motel.
Il y a effectivement un jeu, c'est carrément une sorte de jeu en ligne où vous pouvez parcourir le motel, trouver des indices sur son histoire, comment il est devenu le motel Scarlett. Et en fait, ces deux choses interactives, elles existent parce que quand on écrit une histoire, il y a toujours beaucoup plus de background que l'histoire finale. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se passe avant, il y a des autres personnages qui ont une autre histoire aussi, il y a des choses qui nous permettent de construire l'histoire. Et puis qui sont pas spécifiquement utilisés. Alors moi j'avais effectivement envie de pousser un petit peu le truc dans le tome 1. Ce qui est intéressant, c'est que c'est chaque fois des comédiens. D'ailleurs merci à eux d'avoir joué ces voix là et ces personnages, d'amplifier entre guillemets un peu l'histoire avec des choses nouvelles, de comprendre mieux d'où vient le masque par exemple dans le premier tome. Et puis dans le deuxième, c'est de comprendre, c'est une sorte de préquel, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé là pour que ce motel soit comme ça, parce qu'on arrive en plein milieu d'une histoire. Au final, le motel est déjà un peu au milieu des limbes, comme ça on sait pas trop où, et puis de savoir pourquoi. Donc ça, moi, ça intéressait d'utiliser l'interactif pour donner quelque chose de plus. Ouais.
Et ma dernière question, est-ce que vous avez trouvé un nouvel, en fait pour le troisième tome, un endroit insolite en Suisse, ou bien vous avez plein d'idées pour aller visiter des choses?
On discute, on a une ou deux idées possibles, mais à voir... Peut-être on a besoin de faire une pause.
Oui.
Genre oublier tout ça et venir. J'aimerais seulement dire une chose que je pense que c'est aussi importante dans la façon comme on travaille. C'est que à la fin, l'objet, le résultat, il n'est pas ni à moi ni à Nico. Donc après, on peut, lui, il peut par exemple, comme il a fait, partir dans un jeu de vidéo et moi, je peux prendre en tant que plasticienne, qu'artiste plasticienne, le prendre et le réinterpréter, le donner une autre vision, une autre vie. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant de croiser après notre travail personnel avec un travail qui est développé en commun.
Et là, vous allez faire une pause, mais en même temps, on vous retrouvera. On va vous retrouver bientôt, justement, du côté d'Aigle, au festival BD au Château, dont vous aurez une exposition, et ça sera du 14 et 15 mars. Donc, venez justement au festival, comme ça, on pourra vous rencontrer et faire dédicacer vos deux bandes dessinées, La Source de nos Peurs.
Merci beaucoup, on se réjouit de vous voir, de vous rencontrer.
Super. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir passé un moment avec nous.
Merci à vous.
Merci.
www.radionv.ch